on a aussi un exemple qui est un exemple un peu difficile. C'est l'exemple de Ruth où c'est elle qui a fait la démarche. C'est un exemple un peu difficile, mais je crois que c'est un exemple qui parle. Ruth était une étrangère, mais sa belle-mère était quelqu'un qui avait fait un long chemin, un chemin d'expérience, un chemin, je dirais, peut-être non voulu d'éloignement de Dieu, mais qui a compris que les promesses de Dieu, l'héritage de Dieu, était ce qui pouvait sauver ce dans lequel sa belle-fille devait rester.
Je voulais simplement dire ceci, c'est que, au moins pour les choses comme je les vois personnellement, ça paraît difficile de s'engager pour une vie entière sans connaître un peu quelqu'un. Qu'il y en ait qui aient pu le faire par un acte de foi, je l'admets volontiers, mais voilà. Telle sorte que la période des fiançailles est bien justement cette période où il y a là cette espèce d'exercice et de discernement qui peut être donné quand même. Il faut quand même admettre que tout le monde ne puisse pas s'entendre avec tout le monde. Je dis ça à cause de mon propre caractère. Je crois qu'il faut des gens qui puissent supporter les autres. C'est pas toujours évident dans une vie de couple et il y a des choses qu'il nous faut voir en face. Et la période des fiançailles est justement là, sans doute pour ça. Quant à l'approbation des parents, mais je ne prétends pas répondre tout seul à la question, approbation des parents, les deux exemples cités de Ruth et de Samson sont tout à fait remarquables, en effet. On voit comment Ruth a agi avec sagesse dans un cadre culturel qui était le sien, comme Rebecca à l'époque d'Isaac. Il faut distinguer le cadre culturel et la foi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a agi, on peut dire, pas à pas, avec sagesse. Alors pour la démarche des parents, c'est le cas de Samson, les parents de Samson ont montré véritablement quelle est la limite à laquelle des parents peuvent aller. Ils doivent respecter le choix des enfants, mais les parents de Samson lui ont dit, mais la seule chose qu'ils avaient à lui dire finalement, pourquoi tu vas chercher quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu? N'y a-t-il pas des filles dans le peuple de Dieu pour que tu les épouses? C'est tout ce qu'ils lui ont dit. Alors, Samson n'avait pas trop grand-chose à faire, il a dit non, prends celle-là parce qu'elle plaît à mes yeux. Elle plaît à mes yeux. C'était son problème. Là aussi, quant à l'attitude des parents, il y a sans doute quelque chose de très instructif.
On vient de parler de ce que peuvent avoir à dire les parents par rapport à ce choix-là. Tout à l'heure, on a parlé de ce que peut avoir à dire Dieu par rapport à ce choix-là. Je voulais simplement dire une pensée. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, le risque de faire du mal avec cette pensée qu'il y a une volonté de Dieu par rapport à notre choix, que Dieu a préparé quelque chose, que Dieu a une volonté particulière au niveau de la personne? Sachant que ce qui est dit dans la Bible et qu'on a lu tout à l'heure, c'est plutôt le fait qu'elle se marie avec qui elle veut. Donc à quoi ça sert d'avoir une volonté humaine si c'est simplement pour appliquer la volonté de Dieu? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement que la volonté de Dieu, globalement, c'est le fait de se marier avec quelqu'un de chrétien, déjà quand on est chrétien soi-même, sachant que c'est déjà suffisamment difficile à appliquer quand les sentiments sont là, etc., pour ne pas en plus mettre une pression à rechercher une volonté de Dieu, qui en plus est quelque chose de complexe et dont on peut parler d'humilité. C'est quand même une question.
Je vais essayer de répondre brièvement. Je ne crois pas qu'il y ait antinomie, opposition systématique entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, bien au contraire. La volonté du chrétien se courbe devant la volonté de Dieu quand il la connaît vraiment. Sinon, il la recherche. Le problème, ce n'est pas tellement de trouver la bonne personne, c'est est-ce que je suis la bonne personne? Et pour la personne qui est en face de moi. C'est vrai qu'il faut du temps. Je crois qu'il y a, la Bible dit clairement, il y a la volonté d'aimer, la recherche de la complémentarité. C'est très clair dans la parole. Ça demande du temps, ça demande d'observer la personne dans un différent contexte, comme il a été dit. Ça demande de la prière, forcément. Mais je crois que tout cela, ça se fait. Quels sont les parents qui n'ont pas prié bien avant que leurs enfants se marient? Quels sont les parents qui, lorsque leurs enfants sont mariés, ne prient pas peut-être quotidiennement pour qu'ils ne divorcent pas aujourd'hui? Quels sont les grands-parents qui ne prient pas pour leurs petits-enfants? qu'il se marie, qu'il trouve un conjoint selon la parole de Dieu et qu'il soit heureux. Tout ça va de soi, me semble-t-il. Et peut-être, c'est pas parce qu'on a un chemin plus ou moins long avec Dieu qu'on est à l'abri d'une chute. Vous savez, quel est peut-être le danger le plus grand pour les gens de notre âge? C'est l'orgueil. C'est le sentiment que, finalement, on a déjà pas mal appris, et tout compte fait, on n'a pas si mal réussi que ça. C'est quelque chose de quotidien, quoi, en face duquel on est placé. Pour les jeunes, ce sont d'autres dangers. Mais nous ne nous trompons pas, nous avons tous besoin de la même grâce.
Juste ajouter que, de toute façon, Dieu ne va pas nous faire faire un parcours du combattant pour trouver celle qui nous a destinée. C'est lui qui va nous l'apporter. Nous devons être dépendants. La seule chose qu'il nous dit, tu es chrétien, prends une chrétienne. C'est la seule chose qu'il dit. Après, il dit, celle que je t'ai destinée, je vais te l'apporter. Alors, est-ce que tu auras besoin de la reconnaître? Certes, mais tu ne seras pas seul. Parce que la personne qui t'est destinée, elle sera peut-être encore plus clairvoyante que toi, car les femmes voient souvent le chemin avant l'homme. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je l'ai vécu, j'en ai entendu parler par d'autres. Très souvent, la jeune fille sait que c'est son chemin. Elle ne le dit pas souvent, elle attend. Mais quand on a la chance, quand le moment arrive, que Dieu permet la rencontre, on s'aperçoit que tout était déjà prêt, que Dieu avait tout préparé, que finalement la jeune fille, elle savait que c'était son chemin, avant que nous, les hommes, qui sommes souvent peut-être moins dégourdis sur ce plan-là, je ne sais pas, avant qu'on s'en aperçoive, avant qu'on ait même remarqué la jeune fille, elle était déjà au courant. Alors, il ne faut pas croire que ce soit si difficile. Simplement, il y en a qui se marient plus tôt, d'autres plus tard. Dieu est au-dessus de tout. Dieu a choisi le conjoint. Ce n'est pas pour nous compliquer la vie, bien au contraire. Parce que Dieu sait avec quel caractère on va pouvoir être compatible. Il sait avec qui on pourra s'entendre, avec qui on pourra partager. Il a déjà tout préparé. La seule chose qu'il nous demande, c'est de garder les yeux ouverts.
Aussi, je ne voudrais pas annuler tout ce que vient de dire Daniel, mais aussi c'est pour préciser que parfois quand un garçon va voir une fille, il faut quand même qu'il sache qu'il va lui faire se poser des questions. Aussi bien, il n'y avait jamais pensé, et après, ben, pendant plusieurs semaines, elle va peut-être se poser des questions, se remettre en cause. Donc j'ai déjà entendu dans d'autres réunions de jeunes qui disaient, en gros, de toujours bien faire attention et justement vraiment rechercher la volonté de Dieu avant d'aller voir quand même la personne.
Que Dieu a préparé pour une personne, pour un jeune, ou bien est-ce que j'allais dire, il est dans la volonté de Dieu avec un choix entre plusieurs jeunes filles, entre plusieurs caractères, ou plusieurs jeunes gens. Est-ce qu'il y a vraiment une moitié d'orange qui correspond à une autre moitié selon Dieu, ou bien est-ce qu'il prépare une aide qui correspond, mais que plusieurs aides peuvent correspondre?
Pour moi, la réponse est très facile, parce que si Dieu est au-dessus, moi je ne me pose même pas la question. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs possibilités, je ne pense pas qu'il y en ait trois ou quatre qui conviennent. Bon, si moi, en tant que garçon, j'ai plusieurs jeunes filles qui me plaisent, ou elles sont jolies, elles sont chouettes, je discute bien avec elles, etc. Il peut y avoir plusieurs critères qui me plaisent dans ces jeunes filles, mais je sais quand je vais discuter, ou quand il y en a une, c'est tout, il y en a une, je ne vois pas comment il pourrait y en avoir deux. Si Dieu est derrière, je ne vois pas comment il pourrait y en avoir deux. Il me semble que nous, on a tendance à compliquer énormément quelque chose que Dieu veut mettre à notre portée. Pourquoi Dieu nous apporterait-il un plateau de 5 ou 6 jeunes filles alors qu'on n'en a besoin que d'une? Je ne sais pas. Oui, c'est une jeune fille que je rencontrerai parce que sur Terre, il y a des millions et des millions de jeunes filles que je ne rencontrerai jamais de toute mon existence. Donc je sais que les jeunes filles parmi lesquelles j'ai à choisir, c'est les jeunes filles qui vont être placées sur mon chemin. Deuxième chose, je sais que la jeune fille qui m'est destinée, elle est chrétienne. Ça en élimine déjà pas mal de millions. Et la troisième chose que je sais, c'est qu'il y en a une, ou quelques-unes peut-être, parce que moi j'ai un cœur d'homme et que les hommes, on sait qu'ils ont un cœur d'artichaut. Donc il y en aura peut-être parmi toutes ces jeunes filles, après en avoir éliminé pas mal de milliards, je dirais, parmi ces quelques jeunes filles qui vont me plaire, il y en a une avec qui ça va être réciproque. Et moi, je ne me pose pas des questions de midi à 14h. Je sais que Dieu est derrière, et je sais que ça sera simple. Le jour où ça va apparaître, ça sera tellement évident que je me dirai, mais qu'est-ce que tu t'es cassé la tête, alors que c'est tellement évident quand ça arrive.
C'est un verset de Proverbe 18, il me semble, qui résume un peu ça. C'est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, et la suite, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc il y a les deux choses, hein. C'est l'homme qui trouve la femme, mais il obtient de l'Éternel.
On n'a pas retrouvé le verset avec Nicole, mais il y a Dieu qui a préparé pour l'homme une chose et il lui a amené, et puis aussi pour le peuple d'Israël. Il a pu lui dire, j'ai jeté les yeux sur un bon pays pour toi. Je ne me souviens plus, peut-être que Jean pourrait nous dire où c'est. Mais Dieu avait préparé d'avance un pays pour le peuple d'Israël et il l'a amené. Et je crois que ça va toujours dans la même chose. Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Mais maintenant, nous, des fois, on ne va pas toujours au meilleur que Dieu a préparé pour nous. Alors, pour répondre à ta question, là, tout à l'heure, si Dieu a jeté les yeux sur quelqu'un et que nous, on se trompe, il y a quand même une chose qui est certaine. Une fois qu'on se marie, hein, même si on n'était pas tout à fait dans le plan de Dieu, ce n'est pas celle que Dieu avait prévue pour nous, si on désire réellement vivre avec Dieu, Dieu bénira. Parce que Dieu, le désir de Dieu, c'est de bénir. Et même dans les erreurs que l'on peut commettre, Dieu désire bénir. Quand on retourne à lui et quand on reste à lui dans son chemin. C'est une pensée tout à fait personnelle, mais je pense que même si on s'est trompé dans le mariage, Dieu peut malgré tout bénir si on reste dans son chemin.
Alors je répète la phrase que tu as dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a été aimé sera plus apte à aimer que quelqu'un qui a été maltraité, donc dans sa famille. Hein. Il faut se renseigner.
Disons, se renseigner, que nos parents puissent nous donner des conseils par rapport à cette famille. Je veux dire que ce qu'on a vécu, si c'est une famille chrétienne, ils devraient être aimés. Mais on voit que ce n'est pas toujours le cas. Et voilà, un enfant qui a souffert de la relation qu'il a eue avec ses parents, ben, ça va se retrouver plus tard, quoi. Tout à fait. Ce que j'ai dit aussi, c'est que Dieu pouvait changer toute chose. Et c'est, disons qu'il faudra plus d'amour de la part de l'un envers l'autre, quoi. Et que qu'on soit au courant au départ. Parce que pour moi, je pensais, par exemple, que c'était facile d'aimer quelque chose d'incroyable, quoi. Disons que. Et ce n'est pas toujours le cas. Sinon, pour en revenir à tout ce qui a été dit un peu, disons, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. L'important, c'est de l'aimer. Et puis, notre vie avec Dieu est un cheminement. Et notre vie sur la terre, c'est un cheminement de rencontres. Et ces rencontres aussi, c'est Dieu qui nous les place. On ne pourrait pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. On va lui faire confiance pour toute chose.
Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est facile à dire pour moi qui ai rencontré celle que Dieu m'a donnée. Je le sais parce que je l'ai vécu et que maintenant je suis marié, je sais que c'était elle. C'est plus facile de le dire après qu'avant.
Avant de s'engager dans le mariage, donc avec Roselyne, on a été séparés. Donc on était dans cette période de fiançailles, hein, on ne m'a pas donné la définition de fiançailles, plus ou moins, mais bon. Donc pendant cette période, ce laps de temps, on a été séparés pendant 3 mois. Et là, pendant 3 mois, bah, des choses se sont passées d'un côté et de l'autre. Hein. Bon, on était à 5000 km l'un de l'autre, donc c'était un petit peu difficile de se voir tous les jours ou tous les week-ends, de se téléphoner même, parce que bon, étudiant, on n'avait pas beaucoup de sous, hein, donc voilà, on ne téléphonait pas, on écrivait. Par les lettres, beaucoup de choses peuvent passer aussi. C'est sûr que quand on s'est retrouvés, 3-4 mois après, il n'y avait plus de doute là. Hein. Il n'y avait plus de doute, on était vraiment fait l'un pour l'autre. Quoi.